lentement d'abord, puis de plus en plus vite, le ver recula de plusieurs mètres. Il se tourna alors et s'éloigna vers le désert, longeant la double ornière qu'il avait tracée en venant. Le crissement de son passage diminua peu à peu, et Shyanna prit conscience d'un autre bruit persistant. Elle leva les yeux vers le ciel. Le chouap-chouap d'un ornithoptère sacerdotal descendit sur elle en la balayant de son ombre. L'appareil lança des reflets au soleil du matin, tandis qu'il s'éloignait dans le désert sur les traces du ver. Shyanna se sentit alors envahie par une peur plus familière. Les prêtres. L'orni au loin avait fait demi-tour. Il revint se poser lentement sur une surface de sable aplanie par le ver à quelques mètres de Shyanna. Elle sentit l'odeur de l'huile et celle âcre et nauséeuse du carburant. L'orni était comme un insecte géant tapis sur le sable, prêt à bondir sur elle. Une portière s'ouvrit. Shyanna mit les épaules en arrière et ne recula pas. Très bien. Il l'avait attrapée. Elle ne se faisait pas d'illusions sur ce qui l'attendait. Essayer de fuir n'aurait servi à rien. Seuls les prêtres utilisaient les ornis. Ils voyaient tout et ils pouvaient aller partout. Deux prêtres richement vêtus de robes blanches ornées d'or et de pourpre descendirent de l'orni et se mirent à courir vers elle dans le sable. Ils se prosternèrent si près de Shyanna qu'elle sentit leur transpiration et l'encens musqué à base de mélange qui imprégnait leurs vêtements. Ils étaient jeunes, mais ressemblaient à tous les autres prêtres qu'elle avait déjà vus. Les traits mous, les mains sans cale, indifférents aux déperditions d'humidité corporelle. Aucun des deux ne portait de distis sous sa robe. Celui qui était agenouillé sur sa gauche, les yeux au même niveau que ceux de Shyanna, lui parla. « Enfant de Shai-Hulud, nous avons vu ton père t'amener sur son dos de son lointain pays. » Ces paroles n'avaient aucun sens pour Shyanna. Les prêtres étaient des gens dont il fallait avoir peur. Ses parents et tous les adultes qu'elle connaissait le lui avaient toujours enseigné par les mots et par l'exemple. Les prêtres possédaient des ornithoptères. Les prêtres vous donnaient à dévorer à Shaitan pour la moindre infraction, et même sans infraction, par simple caprice sacerdotal. Les siens connaissaient de nombreux cas. Shyanna recula d'un pas. Elle regarda les deux hommes agenouillés devant elle, puis tourna la tête de tous les côtés. Où aurait-elle pu s'enfuir? Celui qui avait déjà parlé leva une main implorante. « Reste avec nous !»«
Vous êtes trop méchant !»
fit Shyanna d'une voix que l'émotion rendait cinglante. Les deux prêtres se prosternèrent de nouveau sur le sable. Au loin, en haut des tours de la cité, des objectifs renvoyèrent des éclats de soleil. Shyanna les aperçut. Elle savait ce que c'était. Les prêtres étaient toujours en train d'épier tout le monde dans les cités. Quand on voyait ces éclats, il fallait surtout s'arranger pour ne pas se faire remarquer et bien se tenir. Elle croisa les mains devant elle pour les empêcher de trembler. Elle regarda à droite et à gauche, puis baissa les yeux vers les deux prêtres prosternés. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. La figure dans le sable, les deux prêtres frissonnaient de peur et attendaient sans oser bouger. Shyanna ne savait comment réagir. Son esprit de 8 ans était incapable d'assimiler les événements récents. Elle savait que ses parents et tous leurs voisins avaient été pris par Shaitan. Elle l'avait vu de ses propres yeux. Et Shaitan l'avait amené ici, en refusant de l'engloutir dans son horrible fournaise. Elle avait été épargnée. Voilà un mot qu'elle comprenait très bien. Épargnée. On le lui avait expliqué quand elle avait appris les danses et les chants. Shai-Hulud, épargne-nous. Écarte Shaitan de notre chemin. Lentement, car elle ne voulait pas déranger les prêtres prosternés, elle se lança dans les figures enchaînées, arythmiques, de la danse. À mesure que la musique lui revenait en mémoire, elle dénoua ses mains et écarta majestueusement les bras, levant haut le pied dans le même mouvement. Puis elle commença à tourner sur elle-même, d'abord lentement, puis de plus en plus vite, dans l'extase de la musique. Sa longue chevelure brune tournoyait sur son visage. Les deux prêtres avaient osé relever la tête. L'enfant étrange était en train d'exécuter la danse. Ils en reconnaissaient les mouvements, c'était la danse propitiatoire. elle était en train de demander à Shai Hulud de pardonner les péchés commis par son peuple. Elle priait Dieu de leur donner son pardon. Ils tournèrent la tête pour s'entre-regarder et ensemble se remirent à genoux. Puis ils commencèrent à taper rythmiquement dans leurs mains, suivant la tradition qui consistait à essayer de distraire l'attention de la danseuse. Et ils chantèrent les antiques paroles « Nos pères mangeaient la manne du désert dans les endroits torrides où soufflaient les tornades. » Les prêtres ne faisaient plus attention qu'à l'enfant. C'était une petite chose fragile, aux muscles filiformes et aux membres grêles. Sa cape et son distil étaient usés et rapiécés comme ceux des plus démunis. Ses pommettes hautes projetaient des ombres sur le bistre de son visage. Les prêtres remarquèrent qu'elle avait les yeux marrons et les cheveux bruns, par endroits striés de fauve sous l'action du soleil. Il y avait dans l'acuité de tous ses traits, le nez et le menton étroit, le front large, la grande bouche aux lèvres minces, le cou élancé, quelque chose qui évoquait la parcimonie de l'eau. Elle avait un air de famille avec les portraits de Fremen que l'on pouvait voir dans le Saint des Saints de Dar es Balat. Quoi de plus naturel pour la fille de Shai Hulud? Elle dansait admirablement aussi. Pas une seule figure rythmique facile à reproduire ne faisait partie de sa danse. Il y avait un rythme, mais il était admirablement espacé, d'une centaine de mouvements au moins. Et elle maintint la cadence tandis que le soleil grimpait de plus en plus dans le ciel. Il était presque au zénith quand Shiana s'effondra, épuisée, dans le sable. Les prêtres se relevèrent et regardèrent le désert dans la direction vers laquelle Shai Hulud s'était éloigné. Les vibrations de la danse ne l'avaient pas fait revenir. Ils avaient donc été pardonnés. C'est ainsi qu'avait commencé la nouvelle vie de Shiana. Avec animation, dans leur quartier privé, plusieurs jours d'affilée, les prêtres de secteur avaient discuté de son cas. Finalement, ils avaient soumis leurs interprétations et leurs différentes conclusions à l'arbitrage du grand prêtre, Hedley Tuek. Celui-ci avait réuni le soir même ses 6 conseillers dans la petite salle du synode où un portrait mural de Leto II, visage humain à l'extrémité d'un grand corps vermiforme, les considérait de son regard bienveillant. Tuek prit place sur un banc de pierre qui provenait des ruines de l'ancien siège Wind Gap. Muad'Dib en personne, à ce que l'on disait, s'était assis sur ce banc, dont l'un des pieds s'ornait encore d'un bas-relief représentant le faucon des Atréides. Ses conseillers s'assirent sur des bancs moins hauts et plus modernes face à lui. Le grand prêtre était une figure imposante. Il avait de longs cheveux gris et soyeux, bien peignés, qui lui arrivaient aux épaules et formaient un cadre parfait pour son visage rectangulaire à la bouche large, aux lèvres épaisses et au menton massif. Les yeux de Tuek, à l'ombre d'épais sourcils gris broussailleux, avaient gardé leur blanc d'origine qui faisait ressortir le bleu foncé des pupilles. Les conseillers formaient un ensemble disparate. Rejetons pour la plupart de vieilles familles sacerdotales, ils avaient la conviction intime, chacun de son côté, que tout irait bien mieux si c'était eux qui étaient assis sur le banc de Tuek. Styros, au visage pincé et à la silhouette décharnée, se posa tout de suite en porte-parole de l'opposition. « Ce n'est qu'une pauvre enfant du désert qui est montée sur le dos de Shai Hulud. La chose est formellement interdite et demande à être châtiée. » Plusieurs voix s'élevèrent immédiatement. « Non, non, Styros, vous avez mal compris. Elle n'était pas debout sur Shai Hulud comme les anciens Fremen. Elle n'avait pas d'hameçon à faiseur, ni... » Styros essaya vainement de les faire taire. C'était l'impasse à ce que constatait Tuek. 3 contre 3, en comptant Humfred, cet hédoniste gras qui se faisait toujours l'avocat d'une acceptation prudente.
« C'est vrai qu'elle n'avait aucun moyen de diriger Shai Hulud, » fit Humfred. « Nous l'avons tous vu sauter sur le sable, sans la moindre peur quand elle est arrivée, et lui parler. »
Ils avaient tous vu cette scène, en effet, soit sur le moment, soit par l'intermédiaire de l'enregistrement holo que quelqu'un d'avisé avait réalisé. Enfant du désert ou pas, cette petite avait défié Shai Hulud. Elle lui avait parlé. Et Shai Hulud ne l'avait pas dévoré. Le ver de Dieu avait même reculé pour obéir à l'enfant et s'en retourner dans le désert.
« Nous la mettrons à l'épreuve, » déclara Tuek.
De bonne heure, le lendemain matin, un ornithoptère piloté par les deux prêtres qui avaient ramené Shiana du désert la transporta hors de portée du regard de la populace de Kin. Les prêtres la conduisirent au sommet d'une dune où ils plantèrent dans le sable la reproduction exacte d'un marteleur Fremen. Quand ils le firent marcher, un cognement sourd et régulier fit trembler le désert. C'était l'ancienne manière d'appeler Shai-Hulud. Les prêtres regagnèrent en courant leur orni et décollèrent, laissant là Shiana pétrifiée, ses pires terreurs réalisées, à moins de 20 mètres du marteleur. Deux vers furent attirés. Ce n'étaient pas les plus gros que les prêtres eussent observés. Ils faisaient moins de 30 mètres de long. L'un d'eux arracha le marteleur en le réduisant au silence. Ensemble, ils décrivirent un cercle et vinrent s'immobiliser à 5 mètres de Shiana. Elle les regardait, résignée, les poings sur les hanches. C'était cela que les prêtres faisaient toujours. Ils donnaient les gens à manger à Shaitan. À bord de leur orni qui tournait dans le ciel, les deux prêtres suivaient avec fascination la scène que leurs objectifs transmettaient dans la résidence du grand prêtre à Kin, à des observateurs non moins fascinés qu'eux. Tous avaient déjà contemplé des spectacles similaires. C'était une forme de châtiment classique, une manière commode d'éliminer les contestataires du clergé ou de la populace, ou encore de préparer la voie à l'acquisition d'une nouvelle concubine. Mais jamais jusqu'à présent, la victime n'avait été une petite fille solitaire. Et quelle petite fille! Résignée à son sort, elle n'essaya pas de prendre la fuite. Bientôt, se disait-elle, elle retrouverait ses parents et tous ses amis. Mais comme les vers demeuraient immobiles, la colère remplaça peu à peu la peur. Les méchants prêtres l'avaient abandonnée. Elle entendait leur orni au-dessus de sa tête. La forte odeur d'épices exhalée par les vers emplissait l'atmosphère autour d'elle. Abruptement, elle leva la main droite, l'index pointé sur l'orni.
« Allez-y, mangez-moi! C'est ce qu'ils veulent là-haut !»
Les prêtres ne pouvaient entendre ce qu'elle disait, mais il était clair qu'elle s'adressait aux deux vers de Dieu et cet index levé ne présageait rien de bon. Les vers demeuraient immobiles. Shiana baissa le bras.
Vous avez tué mon père, ma mère et tous mes amis,
accusa-t-elle en brandissant le poing et en faisant un pas en avant. Les vers reculèrent pour conserver la même distance.
Si vous ne voulez pas de moi, retournez à l'endroit d'où vous venez,
cria-t-elle en montrant le désert. Dociles, ils reculèrent encore et firent volte-face à l'unisson. Les prêtres de l'orni les suivirent jusqu'à ce qu'ils s'enfouissent dans le sable, à un peu plus d'un kilomètre de distance. Alors seulement, ils retournèrent chercher Shiana, terrorisée et tremblant, pour la conduire à Kin. Avant la nuit tombée, l'ambassade du Bene Gesserit avait reçu un rapport complet. Le lendemain matin, un message partit pour la planète du chapitre. Cela s'était produit, enfin.